S&P 500, le temps des prises de profit est proche. Dans cette vidéo, chers amis, je vous démontre 1. Que la désinflation US n'est pas menacée. Non, elle n'est pas menacée par les chiffres supérieurs aux attentes de janvier. Démonstration à l'appui. Numéro 2. Je vous détaille un ensemble d'alertes qui laissent présager l'engagement à venir d'une phase de prise de profit, en particulier sur les stars de la tech US, vous allez voir. Et enfin, point numéro 3. Analyse technique détaillée des indices boursiers américains. Point numéro 4, analyse technique détaillée des indices boursiers européens, dont le CAC 40 et le SMI. Point numéro 5, analyse technique détaillée de la Chine, Shanghai, Shenzhen, on fera même Taïwan. Et enfin, un mot sur le Nikkei, qui est tout proche de ses records historiques de la bulle spéculative de 1990. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gamme. Alors, chers amis, je suis donc ravi de vous retrouver. Je viens de vous donner le plan. Je vous affiche ici davantage de détails. Alors, on va faire quelque chose d'assez consistant. Comme d'habitude, vous savez, il y a eu la semaine dernière, alors le plan est sous vos yeux, la semaine dernière, les chiffres de l'inflation en janvier, de l'inflation à la consommation selon le CPI, sont ressortis supérieurs aux attentes. Il y a eu une séance de baisse sur le S&P 500, car payé tout de suite. Bon, après, on sait ce qui s'est passé en fin de semaine. Très bien. Et, rassurez-vous, les amis, l'inflation est déjà vaincue. J'ai fait une vidéo sur ce sujet il n'y a pas longtemps. Je confirme, je signe. Tous les indicateurs d'inflation nous disent que ce rebond là de janvier, qui n'était même pas un rebond, puisque l'inflation est ressortie supérieure aux attentes, mais elle continue de baisser, mais moins que prévu. Par contre, l'inflation sous-jacente est restée à 3,9, selon le CPI. À cause de quoi? À cause d'une hausse plus forte que prévue de la composante immobilier, notamment loyer, et inflation des services. Les loyers, c'est du bullshit. Les données là dans les indices, dans l'indice d'inflation officielle des loyers, c'est les loyers d'il y a 8 ou 9 mois. Or là, lorsque vous faites le tour d'horizon des sites internet immobiliers, lorsque vous interrogez même les agences immobilières, les loyers sont déjà en baisse. Il y a toujours un décalage de plusieurs mois. Je vais vous montrer tout à l'heure une super courbe qui compare les loyers en temps réel avec ce qui se passe avec les indices d'inflation officielle. Donc moi je sais que de toute façon, dans 6 mois, la dimension immobilière est en baisse. C'est garanti, c'est certain. Bon, il n'y a pas que ça, donc on va regarder les autres composantes. Donc moi, je ne m'inquiète pas. Alors, S&P 500, oui, il a fait de nouveaux records historiques, avec une extension au-dessus des 5050 points, très bien. Bon, voilà, moi, je pense quand même qu'il y a un certain nombre de divergences. Vous savez, un marché ne monte pas en ligne droite. Il y a toujours une alternance d'impulsion et de phase de pause. Ça peut parfois durer plusieurs semaines. Je pense que c'est ça qui est proche. Et je vais le démontrer. Et je vais être précis à court terme sur, en fait, partout, nous avons des vaccins. Rappelez-vous cette vaccin dont je parle, moi, depuis des mois. Sauf qu'elle est en extension. Elle a dépassé les objectifs théoriques usuels. Mais il en reste un. Le plus important d'entre eux. Qui est pas loin. Donc, je vais reprendre ça sur le SP500, sur le Nasdaq. On va faire des actions US. On fait plein de choses. Et d'ailleurs, comme on fait plein de choses, écoutez, je vous prends aussi quoi. On ne perd pas davantage de temps, donc le plan, il est à nouveau affiché ici, sous vos yeux. Et puis donc voilà, première partie, moi je me réinstalle tranquillou. Alors on commence, donc oui, je commence par les parties fondamentales. Mais franchement, vous croyez, ça va pas être chiant. Parce que vraiment, je veux insister sur ce sujet. L'inflation US CPI supérieure aux attentes n'est pas un souci, car c'est provisoire. Et je le dis, point final, et je le démontre. Donc, tout d'abord, haut à droite, vous avez donc la représentation graphique du CPI aux États-Unis. Alors, ici en version nominale, ici en version sous-jacente, là vous avez la composante immobilière et services, qui est effectivement très élevée. Et donc, voilà ce qui a stressé le marché la semaine dernière. Là, je vous ai refait une synthèse de ces chiffres de l'inflation. Donc, le PCE, d'ailleurs, qui est l'indice favori de la Fed, lui, il n'est plus en zone d'alerte rouge. Il est presque à 2, et les indicateurs avancés nous disent qu'il sera à 2 dans 3 mois. Voilà. Le CPI, lui, est en zone d'alerte rouge. Et encore une fois, c'est à cause du poids de l'immobilier. Je vous renvoie vers le Top Gamme de la semaine dernière. Il y a dans le calcul du CPI 40% d'immobilier. Et donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Eh bien, regardez ce qui s'est passé. Je vous l'affiche ici. Voilà ce que nous avons eu. Nous avons eu ça, c'est-à-dire un rebond, cette fois-ci, je parle en rythme mensuel. Un rebond inattendu, de quoi? Alors, tous les détails sont expliqués ici. Bon, je vais le lire. Les prix à la consommation de base aux États-Unis, donc en excluant les éléments volatiles, c'est l'inflation core, ont accéléré en janvier de manière complètement inattendue. inattendue, et cela a été attribué à une accélération des coûts du logement et des services de transport. Pour les coûts du logement, c'est du bullshit, c'est provisoire. Alors certains ont même pensé qu'il y avait une erreur. Il n'y a pas eu d'erreur. Non, c'est juste provisoire. Car ce rebond du prix des loyers en janvier, c'est le rebond observé il y a 8 ou 9 mois. C'est à peu près la durée qu'il faut, 8 à 9 mois, pour que les loyers réels, là, en temps réel, là, vous allez aux États-Unis, vous faites un nouveau loyer et vous faites un taux de croissance par rapport au prix il y a un an, c'est en baisse. Donc cette hausse-là en janvier, ça repose sur des anciens contrats de location. Et le problème, c'est que dans les indices d'inflation officiels, les nouveaux loyers sont intégrés que progressivement. Mais si on ne tient compte que des nouveaux loyers, et ce que montrent des indices de loyers immobiliers des sites internet d'agences immobilières, c'est déjà en baisse. Donc nous savons que ce qui est en baisse maintenant sera intégré dans le CPI dans 6 à 8 mois en baisse. Donc on sait que la dimension immobilière, qui pèse 40% du CPI, aura une contribution négative dans 8 mois. Donc on sait, sauf si le pétrole remonte à 150 dollars, et sachant que toutes les autres composantes sont en chute libre, je vais vous montrer. On sait de toute façon que l'inflation sera à 2 dans 6 mois. Donc là, il n'y a pas de débat. Sauf fait exceptionnel, bien sûr, oui, la mer Rouge, le canal de Suez, la guerre, la Première Guerre mondiale, les bombes nucléaires. Ok, d'accord, dans ces cas-là, c'est bon, on ne fait plus rien, on cache de l'or dans ces murs. Et voilà, moi je ne me lève pas chaque matin en racontant que c'est la fin du monde, comme un certain nombre de personnes en font leur business. Bon, donc, alors, je vous montre la dimension appareil, chute libre. Ça, c'est hyper important, c'est ce qui est concret, c'est tangible. Les nouveaux véhicules, les voitures, chute libre. Voilà, fin de l'histoire. L'alimentation à la maison, chute libre. Bon, alors par contre, oui, immobilier et services, ce n'est pas la chute libre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là aussi, je vais vous expliquer pourquoi je ne m'inquiète pas. Ceci ne remet pas en cause la désinflation, ça la retarde. Alors, par contre, j'admets quand même qu'il y a une difficulté sur l'inflation des services. Cette inflation des services, il y a une difficulté, elle est encore à 5,4, elle ne baisse pas assez vite, ce n'est pas une surprise, car comme j'ai pu vous le montrer, en janvier, il y a eu une réaccélération du secteur des services aux États-Unis. Ici, donc, selon Markit, et on peut regarder aussi, nous pouvons aussi le regarder selon l'ISM, oui. J'arrive bientôt avec les graphiques intéressants sur l'immobilier. Donc ça, d'accord, ça je vous l'accorde, ça je vous l'accorde, il y a un souci quand même sur l'immobilier, sur les services. Mais ces services ne représentent pas non plus un poids écrasant dans les indices d'inflation. Hein, c'est surtout la partie immobilière, hein, qui a fait le rebond de janvier, là. Et comme on sait que c'est du bullshit, parce qu'en fait c'est les données d'il y a 8 mois, voilà. Bon. Donc ce n'est pas un souci, parce que plus la Fed tarde à pivoter, plus les conditions monétaires restent restrictives longtemps, et là on ne parle pas de pivot de la Fed maintenant avant juin ou juillet. De toute façon, ça finira par briser l'élan des services. Cela ne peut pas être autrement. Sauf fait exceptionnel, encore une fois. Et moi j'ai une démonstration là, où on reste dans la normalité, dans la moyenne. Les faits exceptionnels sont à côté, on les jette de temps en temps, mais ils sont à côté. Mais ce n'est pas le sujet, là je ne les intègre pas à la démonstration. Donc, ok, c'est très bien, mais voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, les conditions. Là, regardez un peu le taux de la Fed. Ça fait plusieurs mois consécutifs qu'il est à 5,5. Plus le temps passe, plus ça joue contre l'inflation des services. Le taux réel est aussi positif. Tiens, tant qu'on est au-dessus de zéro, plus on reste au-dessus de zéro longtemps, plus ça broiera toutes les pressions inflationnistes. Voilà. Bon, sauf si la Chine, bien sûr, envahit Taïwan et si la Russie envahit l'Europe occidentale. Hein, d'accord. Bon, ça, je suis d'accord, mais je suis d'accord avec tout le monde, hein, sur ça. Plus important, c'est là où j'arrive et c'est là où j'ai ma conviction. J'arrête l'ironie. Le maintien. Alors, il y a eu un problème d'inflation des loyers. Le maintien d'une inflation des loyers immobiliers élevée, je pense que c'est provisoire et j'ai une certitude à 100%. Pourquoi? Car le CPI intègre avec retard les loyers. Je vous montre un graphique hyper intéressant. Regardez-le, ce graphique, il est là. Vous avez là un graphique qui compare en bleu et en jaune l'inflation immobilière officielle, des indices d'inflation. Et en orange, l'inflation immobilière réelle, basée sur les prix des nouveaux loyers reportés par les gros sites d'annonces immobilières. Qu'est-ce que vous constatez? Que les indices, regardez, il y a eu une explosion des loyers, ça c'est la vague inflationniste, et avec retard, l'inflation officielle les a intégrés. Là, vous avez maintenant un effondrement de l'inflation des loyers. D'ailleurs, regardez la courbe orange, on est revenu au niveau d'avant l'inflation Covid, post-Covid. Et donc, nous savons que ces indices d'inflation officiels, qui sont encore à 6, vont revenir eux aussi dans, allez, 4 à 6 mois, à leur niveau d'avant Covid. Donc, voilà, c'est... Donc les chiffres, les chiffres là, qui ont inquiété tout le monde de janvier, publiés la semaine dernière, c'est que des données du passé. C'est pas les données actuelles. Donc voilà. Donc moi, je m'inquiète absolument pas. En tout cas, pour la composante immobilière. Pour la composante immobilière, bien sûr, si toutes les autres composantes rebondissent, mais pour l'instant, les autres composantes, comme je vous l'ai montré, sont encore en chute libre. Les autres composantes sont encore en chute libre. Donc, la composante immobilier, on sait de toute façon qu'elle va revenir ici, là, dans 6 à 8 mois. Parce que, voilà, c'est ce qu'on observe en temps réel. Voilà, la composante immobilier, là, on sait qu'elle va revenir ici. Donc, là-dessus, c'est bien. Alors, maintenant, bien sûr, il y a les autres composantes. Alors, les autres composantes sont encore en baisse. Et à cela s'ajoutent les fameux indicateurs avancés d'inflation dont je vous parle souvent, qui eux aussi montrent que la désinflation se poursuit. Donc, vous avez Trueflation, Inflation Forecasting et surtout le prix des matières premières agricoles, mais aussi du gaz naturel et du pétrole. Donc, je vais vous montrer ça. Tout d'abord, Inflation Forecasting nous dit toujours que nous aurons un PCE à 2,24, c'est presque 2, dans les chiffres de février. Première chose. Trueflation nous dit qu'on est à 1,42. Et d'ailleurs, si vous regardez la composante immobilier de Trueflation, oui, on est à 3,76. On n'est pas à 6, on est à 3,76. Parce que Trueflation, c'est comme le graphique que je vous ai montré juste avant, c'est les données en temps réel. Donc on sait déjà que la composante immobilière, là, qui est au-dessus de 6 dans l'inflation officielle, et qui a stressé tout le monde, en fait, on sait que dans les faits, elle est qu'à 3. Mais que ce 3, il sera effectif dans l'inflation officielle que dans 6 à 8 mois. Vous comprenez la logique? Alors après, pourquoi est-ce que le CPI est calculé comme ça? Pourquoi est-ce que le CPI tient compte des contrats de location en cours et pas que des nouveaux? Ça, eh bien, il faut interroger l'institut qui édite le CPI. Hein. C'est pas de ma faute. Mais voilà, en tout cas, regardez l'inflation alimentaire. Elle est quasiment sous zéro. Elle est à 0,16. Alors, faut arrêter de parler d'inflation. Ça, attention, je dis pas qu'on vient au prix d'avant. Donc moi, j'ai pas d'inquiétude. Et regardez aussi le prix du maïs. Regardez aussi le prix du blé. Regardez aussi le prix du soja. Ça s'effondre. Regardez aussi le prix du gaz naturel. Et même le pétrole qui reste sous les 80 dollars. Bon, il n'y a pas d'inquiétude. Enfin, en tout cas, au stade actuel. Bon, voilà, ça c'était pour la partie inflation. Je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps, mais avançons. Alors revenons quand même au sujet, S&P 500, synthèse des alertes qui prédisent une phase de prise de profit à court terme. Alors là, il y en a un certain nombre que je vais vous lister. Tout d'abord, alors le contrat futur S&P 500 pourrait bientôt entrer dans une phase de prise de profit après avoir marqué un nouveau record historique. Hein, nous sommes d'accord, voilà, le S&P 500, très bien. Alors, la partie technique, on précise, elle arrive après les phases d'alerte. On est dans une vague 5 qui est en extension. Cette vague 5 va bientôt arriver à son terme. Mais effectivement, elle a dépassé beaucoup d'objectifs théoriques. Mais ça, j'y viens juste après. On va reprendre ça tranquillement. Donc moi, j'estime que nous allons bientôt avoir une pause. Alors, quelle forme elle va prendre? Est-ce que ça va être un flat? Est-ce que ça va être un zigzag? J'en sais rien. Mais je pense que c'est ça qui approche pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, vous avez une divergence entre le rebond des taux d'intérêt du marché et la poursuite de la hausse du S&P 500. Les prises de profit sur le S&P 500 devrait bientôt sanctionner ce rebond des taux. Alors, ce rebond des taux qui, certes, lui aussi, est provisoire. Vous avez mon scénario sur les taux d'intérêt que je vous ai proposé la semaine dernière. Et donc, effectivement, lorsque vous regardez, voilà, il y a de longue date. Donc là, je vous ai mis le taux d'intérêt à 2 ans américain en bleu et en rouge le taux à 10 ans. Il y a une corrélation inversée assez nette, hein, entre la tendance des taux nominaux et le S&P 500. Et là, donc, il y a une divergence, puisque les trois quarts de la poussée depuis les 4200 points avait été bien porté par le repli des taux d'intérêt du marché. Là, on a un rebond technique, un rebond provisoire des taux d'intérêt du marché, lié à quoi? Au fait qu'il y a un report dans le temps des anticipations de pivot de la Fed. Ce n'est plus attendu avant la réunion de juin ou de juillet, hein, donc clairement pour le mois de mars, sauf explosion du chômage, ça devient extrêmement peu probable. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, cette remontée des taux du marché va se répercuter sur l'indice S&P 500. Je continue sur les alertes. Une multitude de divergences baissières prix momentum se sont formées sur l'horizon temps journalier. Je vous rappelle que les divergences baissières ne disent pas que le marché va baisser. Ils nous disent qu'en tendance haussière, le marché peut soit monter moins vite, soit faire un trading range, soit corriger. Mais c'est une alerte qui invite à regarder les signaux qui sont donnés par les prix. Et ce sont les signaux donnés par les prix qui nous disent si c'est une hausse moins rapide, un trading range ou une correction. Et quand il n'y a pas de divergence, on ne se prend pas la tête, on reste à l'achat, pas d'alerte. Bon, là, il y en a et elle se multiplie. Donc ça, c'est donc une première chose que je vais vous illustrer tout de suite. Donc sur l'horizon de temps journalier, effectivement, nous avons alors la divergence, là vous avez le contrat futur S&P 500 en journalier. Nous avons tout d'abord une belle divergence de RSI, hein, qui rappelle un peu d'ailleurs celle qu'on avait eue ici en juillet. Vous avez ici le plus intéressant, vous avez l'écart relatif à la moyenne mobile à 50 jours, la moyenne mobile à 50 jours qui est ici, et effectivement, là c'est assez net, puisque voilà, le marché a d'ailleurs été 8% au-dessus de sa MM50, c'est une zone résistante, il y a une belle dive, ça nous annonce un retour à la moyenne, alors c'est-à-dire que c'est soit le prix qui revient, soit la moyenne mobile qui monte, soit le prix qui y va et la moyenne mobile qui monte, voilà, c'est l'un ou l'autre. Mais en tout cas, on ne va pas pouvoir s'écarter encore davantage de celle-là trop longtemps. Ça, c'est une première chose. Et puis, vous avez aussi une divergence de MACD. Donc, ça, c'est quand même quelque chose à noter qui rappelle la situation ici de fin juillet 2023. Quatrième alerte, les troupes ne suivent pas les généraux. C'est-à-dire que la profondeur du marché est faible. En gros, vous avez une forte divergence entre le S&P 500, le Dow et le Nasdaq 100, et d'autre part, le Russell 2000 et le Russell 3000. En gros, je vous ai déjà expliqué, les nouveaux records du S&P 500, ça s'est fait sur 10 valeurs. Même moins, en fait. Les Magnificent 7, et même, en fait, encore moins les 4 fantastiques. Hein, parce que Tesla n'a pas trop contribué. Donc, vous retirez ces valeurs, il n'y a pas de nouveau record historique. Dans un vrai marché bullish sur le fond, où il n'y a pas d'inquiétude macroéconomique, les troupes suivent les généraux. Donc, arrivera un moment où il y aura des prises de profit sur ces stars de la tech, ne serait-ce que pour encaisser des gains, et comme il n'y aura pas de relais sur les autres, voilà, mécaniquement, les indices boursiers corrigeront. Ça, c'est une alerte. Alors, je vais l'illustrer, ces troupes qui ne suivent pas les généraux. Je vais l'illustrer déjà avec Guru Focus, où vous avez ici un super tableau qui nous montre la performance, donc, en year to date des actions américaines selon la taille des capitalisations boursières. Regardez, depuis le début d'année, où sont les hausses? C'est pas les nanocaps, c'est pas les microcaps, c'est pas les small caps, c'est pas les mid caps, c'est un peu les large caps, et en fait, c'est quasiment seulement les méga caps. Vous enlevez les méga caps, il n'y a pas de hausse. Ça, c'est une méga alerte. Donc, attention à ça. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, les différents indices boursiers, c'est dans la partie d'après. Je vais être précis sur la partie technique. Cinquième alerte. L'analyse quantitative donne des signaux d'alerte avec une chute du pourcentage d'actions au-dessus de ses moyennes mobiles à 50 et 20 jours, alors que le S&P 500 fait de nouveaux records, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de profondeur du marché, c'est-à-dire que vous avez le S&P 500 qui, lui, est largement au-dessus de ses moyennes mobiles à 50 jours, alors que 95% des actions, elles, sont passées en dessous et de plus en plus passent en dessous. Il n'y a pas de profondeur du marché. Ça illustre aussi ce que je montrais avant, cet adage, hein, les troupes ne suivent pas les généraux. Donc ça, j'illustre mon propos tout de suite, avec donc effectivement le S&P 500 qui a poussé davantage la semaine dernière. Et donc, lorsque vous regardez voilà, le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours, nous sommes en correction depuis quasiment mi-janvier. Et ça va revenir ici. Ça aussi, c'est précurseur d'une phase de pause qui pourrait rappeler un peu la phase de pause qu'on avait eue en septembre-octobre dernier Alors, sur le S&P 500, alors jusqu'à quel niveau le marché ira avant de rentrer en récession, c'est pas loin. Après, tu ne peux pas donner avec précision, c'est pas loin. Il faut attendre la semaine de rupture, la session de rupture. Ça, c'est important à noter. Nouvelle alerte. Alors, depuis deux semaines, vous avez le... Alors, c'est une alerte, oui et non, c'est le sentiment des traders particuliers. Là, je dois reconnaître que, effectivement, depuis alors, deux semaines, vous aviez un réservoir des acheteurs qui était quand même sacrément bien rempli. Et il s'est un peu vidé la semaine dernière avec une remontée du pourcentage de short. Donc, c'est une alerte orange. Ça montre quand même qu'il y a du ressort, il y a de l'élan. On est dans une zone haute. 42%, c'est au-dessus de la moyenne historique. Mais effectivement, ça s'est un peu dégonflé. Mais bon, il est quand même pas loin d'être rempli. Donc, attention, c'est une alerte orange, on va dire, ici. Hein. Pas une alerte rouge. Alors bien sûr, les leaders de la tech US et la valorisation sont d'autres alertes. Ça, j'ai fait un top gap dessus il y a deux semaines pour vous montrer que, alors le marché, par exemple, si vous regardez le PE chiller depuis 10 ans est maintenant à 34 sur le PE chiller du S&P 500. On est au-dessus de un écart type de la moyenne sur 10 ans. Sur 5 ans, on arrive à un écart type au-dessus de la moyenne. Et effectivement, voilà, un PE chiller à 34, c'est très élevé. Le PE chiller que le marché a atteint ici entre à 38-39, c'était la bulle spéculative des taux zéro. Là, c'est quand même une sacrée alerte. Vous avez aussi cette belle infographie qu'a préparé FactSet avec le PE forward du S&P 500 qui a atteint les 20. Hein, c'est un niveau qu'il a dans son existence très rarement atteint. On arrive sur les niveaux de 2000-2001, la bulle spéculative, on arrive sur la bulle des taux zéro. Donc, on n'est pas encore, mais on n'est pas loin. Donc voilà, et là vous avez aussi le PE forward de tous les secteurs comparé à la moyenne sur 25 ans qui est en jaune. Quasiment tous les secteurs du S&P 500 en termes de valorisation sont au-dessus de leur moyenne sur 25 ans. Donc ça, c'est quand même pas rien, et c'est à noter. Et à cela s'ajoute donc, vous avez sur ces fameuses stars de la tech, vous savez, la première capitalisation boursière mondiale, c'est Microsoft. C'est la première capitalisation boursière mondiale. Maintenant, ça pèse 3200 milliards de dollars. Là aussi, le marché dans sa vague 5, c'est la dernière. On est en surachat. Il y aura un signal de vente lorsque le RSI ressortira par le bas de sa zone de surachat. Regardez un peu, hein, ça, en termes de structure, ça commence à rappeler ça. Bon, alors la vague 5, alors, d'ailleurs sur Microsoft, vous avez en alerte, donc attention, vous avez des premières ici, divergences baissières, c'est sur l'horizon de temps journalier, hein, prix momentum, Microsoft, hein, ça fait quand même une grosse partie maintenant du S&P 500, et puis même, je peux regarder par exemple l'objectif théorique de la vague 5 en prenant le bas de la 1 au top de la 3, au bas de la 4 et en faisant le 0,618, une des cibles théoriques majeures a été faite. Alors oui, je sais, ça peut être en extension. Vous savez qu'on, au pire du pire, une 5, ça peut faire une fois de la 1 à la 3. Ça pourrait faire une fois de la 1 à la 3, mais bon là, moi je dis, on va d'abord marquer une pause. Donc voilà, partout, on a une vague 5 qui est au-delà des objectifs usuels. Donc voilà, il faut savoir raison garder, je pense, à un moment ou à un autre. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour l'ensemble des signaux d'alerte. Alors maintenant, je vais passer... à l'analyse technique des indices US, ensuite on se fait l'Europe, et ensuite on se fait la Chine, le Japon, et on se fait ça tranquillou. Donc S&P 500, Nice Composite, Microsoft, Nvidia, Microsoft, on a déjà vu. Voilà, pour le S&P 500, je ne vous refais pas toute la totale de la semaine dernière, mais en gros, soit le marché, je vais dégager l'Ichimoku, soit le marché est dans une structure en flat, ABC, donc ce qui peut être ici un expanded, un running flat ou un expanded flat, voilà, c'est on a cette première hypothèse. Il n'y a pas de divergence en mensuel. Regardez, les fins de hausse, c'est vraiment quand il y a des grosses divergences mensuelles. Donc, encore une fois, là, je vous parle de prise de profit à court terme, hein, soyons clairs. Je vous parle de prise de profit à court terme. C'est vrai que sur l'horizon de temps mensuel, il n'y a pas de div. Alors, même dans ce scénario-là, avoir un expanded flat ou un running flat, on a une vague B qui va chercher entre 1,236 et 1,38 $, ce qui donne entre 5100 et 5300. Bon, ok, très bien. Bon. En tout cas, on a une première target ici. Les 5100, de ce point de vue-là, seront quand même un mur difficilement franchissable dans l'immédiat. Bon, et vous avez, et dans l'autre scénario, en fait, d'un nouveau grand marché haussier, et on aurait fait les 5 premiers temps, eh bien, nous sommes dans la vague 5. J'ai remis ici donc une extension de FIBO du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4. Bon, la cible théorique usuelle la plus importante a été faite. On pourrait éventuellement faire, car effectivement, alors ça c'est assez rare, mais on peut avoir une 5 qui ferait une fois de la 1 à la 3. Une fois de la 1 à la 3, sachant que c'est quand même un scénario archi rare. Le plus usuel est d'avoir une vague 5 qui fasse 0,618 du bas de la 1 au top de la 3. Mais si on fait une fois là, alors là, ça donne les 5003. Bon, ça sera peut-être la cible à horizon 12 mois, j'en sais rien, mais moi je vous parle du court terme. Je peux prendre aussi une extension de la vague 3, une extension de la vague 3 qui est quand même sacrément costaud ici, au bas de la 4. Et bon, bah là, voilà, on est déjà au-delà d'une fois la 3, donc bon, on est partout sur une vague 5 en surextension. Donc voilà, il faut être prudent, il faut être prudent au stade actuel. Là, il faut être prudent, franchement, tout ce qui est au-dessus des 5050, 5100, ça me paraît quand même de quoi être capable de déclencher une phase de prise de profit. Vous savez, c'est la même chose sur le Nasdaq 100, c'est la même chose sur le Nasdaq composite. Allez, je vous montre par exemple le Nasdaq composite. Nous sommes aussi dans cette cinquième vague. Nous sommes aussi dans cette cinquième vague avec l'objectif le plus usuel qui a été fait. Je peux faire autre chose. Je peux projeter l'amplitude de la 3 au bas de la 4. Au bas de la 4, bon, en général, c'est 0,68. Partout, en fait, ça a été fait. Donc là aussi, nous sommes sur des vagues 5 en extension. Nous sommes proches de la fin. Proche de la fin. Alors, par contre, un autre graphique est très intéressant. Regardez, c'est le nice composite. C'est toutes les actions américaines, la totale. C'est tout. Il y a tout. Ben regardez où est-ce qu'on est revenu. Au contact des records de la bulle des taux zéro. Il y a quand même un alignement de résistance. Alors, il n'y a pas de divergence, je vous l'accorde. Hein, il n'y a pas de divergence. Mais il y a quand même un alignement de résistance qui invite à la prudence. Du côté des small et mid cap, là, ça, on est encore bas. On serait sorti par le haut de ce range, ça stat. D'ailleurs, en Ishimoku hebdomadaire, je relevais que c'est intéressant, hein, on se libère de résistance. Bon, c'est vrai que le Russell 2000, peut-être que les small et les mid cap vont rattraper leur retard sur les stars de la tech. Là, j'aurais tendance à me dire qu'il y a du potentiel encore, à la différence du S&P 500. Oui, alors Microsoft, Nvidia, je vous en ai parlé tout à l'heure de Microsoft. Nvidia, c'est la même chose. Le marché est dans sa vague 5. Et alors là, regardez ce qu'on vient de faire. On vient de faire une 5 égale 3. On vient de faire une 5 égale 3 au niveau des 750. C'est des belles cibles. Bon, voilà, on est complètement suracheté. Il n'y a pas de div, oui, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez tous conscience que, voilà, à un moment ou à un autre, le marché n'est pas loin d'être allé chercher le max du max. En tout cas, sur le court terme. Alors, c'est différent pour les indices européens, les indices chinois, et alors, le Japon, c'est encore un autre cas de figure. Analyse technique des indices européens, Eurostock 50, CAC 40 et S&P. Donc, en Europe, le réflexe, c'est l'Eurostock 50. Là, franchement, je vous montre déjà un truc. Franchement, je ne dis pas que j'y crois. Mais l'Eurostock 50 en mensuel, bon, bah, y a une cassure technique. Il y en a qui visent ça, hein, peut-être. Hein, pourquoi pas un gros rattrapage des actions européennes. Il y a peut-être moins d'inquiétude là-dessus, effectivement, l'Eurostock 50. Et c'est vrai que, pour l'instant, écoutez, on ne se prend pas la tête. Tant que c'est au-dessus des 4006, l'ancien record de 2007, tant que c'est au-dessus des 4006, c'est bullish. Si on réintègre 4006, c'était un piège et ça va chuter. Donc, que vous tradiez le CAC, le DAX, surveillez les 4006 de Eurostock 50. Et ça va s'appliquer aussi pour le cours du CAC 40. Pour le cours du CAC 40, bon, c'est le niveau des 7004. C'est le niveau des 7004. 7004, 7003, 7004, tant qu'on est au-dessus, c'est bullish. Sur les indices européens, là, il n'y a pas de. La situation est un peu différente. avec l'Eurostock 50 qui est quand même loin, loin de ses records. Loin de ses records. Alors, pour le SMI, lui, quand est-ce qu'il va se réveiller? Le SMI, bon, vous avez vu, hein, l'inflation et s'effondre en Suisse. Est-ce que la faiblesse potentielle du franc que cela pourrait induire ces prochains mois va enfin lui permettre de faire quelque chose? Il y a une résistance que le marché n'arrive pas à faire sauter, ce sont les 11 264, 11 300. Elle bloque. C'est vraiment... Et puis le SMI, de toute façon, le SMI, c'est Roche, c'est Nestlé, et partout, je regarde Roche par exemple, on arrive en zone basse, il y a un début de divergence. Je regarde Nestlé, il y a un début de divergence. Il faut aussi regarder Novartis. Il faut aussi regarder Novartis, la petite Novartis elle est là. Bon, alors là, elle a plutôt tapé ici le point haut, elle est plutôt en correction. Mais je me dis, l'indice boursier SMI, qui a été bon dernier quand même, ne va-t-il pas tenter un rattrapage avec l'effondrement de l'inflation en Suisse et ce que pourrait faire la Banque Nationale? Bon, à voir. La résistance à 11 264, 11 300 n'a pas sauté. Il y a eu une tentative de le faire fin janvier, ça a été un piège. On essaye de s'accrocher à la moyenne mobile à 200 jours. Moi, je dirais que tant qu'on se maintient au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, il y aura des tentatives. Si on refait une cassure comme ça, ce sera la bonne. Mais vous voyez que là, on n'a pas cassé le niveau. Donc, surveillez ça. Pour que le SMI puisse retrouver de l'élan, il faut qu'il puisse, sur la base d'une clôture hebdomadaire, faire sauter l'obstacle graphique des 11 265, 11 300 points. Mais de toute façon, le benchmark pour les indices européens, ça reste l'Eurostock 50. Et c'est bullish tant qu'on est au-dessus des 4610. Et si on passe en dessous, non. Je vous rappelle que c'est l'ancien record ici de 2007, donc ce n'est pas rien. Alors, les indices chinois et japonais, alors tout d'abord, alerte à Malibu, non je déconne, alerte rouge sur le Nikkei. Alerte rouge sur le Nikkei, qui est tout proche de rejoindre les records historiques. Ici, c'était une bulle spéculative, hein. Et d'ailleurs, c'est en grande partie une bulle immobilière et financière ou financière qui a plongé le Japon en déflation pendant plusieurs années. Bon, là, c'est quand même... Alors, est-ce que ce ne serait pas le niveau trop évident? Mais ça va, dans le pire des cas, déclencher des prises de profit. Si vous avez profité de la hausse du Nikkei, sachez prendre des bénéfices. Je dis attention. Par contre, il n'y a pas de div, mais on entre en surachat en mensuel. Attention donc, attention à ce niveau du Nikkei, à cette résistance qui est en approche. Alors en Chine, c'est intéressant parce que, alors déjà, vous avez la semaine dernière le nouvel an chinois, donc voilà, ça ne cotait pas. Mais moi, je pense toujours qu'on est en zone basse. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Je pense que je suis plus à l'aise de tenter des achats, par exemple, sur la bourse de Shenzhen, sur des niveaux de support comme ça, que sur le S&P 500 qui est tout en haut. Si vous prenez la bourse de Shanghai, on commence à avoir, en données hebdomadaires, des petites divergences sympathiques. Et vous savez que la semaine dernière, l'indice boursier de Taïwan, alors c'est surtout des valeurs de la tech, a fait un nouveau record historique. Donc il y a des éléments comme ça qui sont à suivre. Moi, j'aurais plutôt tendance à chercher sur la Chine continentale ou sur Hong Kong, Shenzhen, Shanghai, ou même sur Hong Kong, hein, qui est en zone basse, voilà, qui est sur ce support. Et voilà, donc c'est ce marché action chinois. Ce marché action chinois, il est à la fois, comment dire, moins cher. Alors clairement, soyez certains, en termes de valorisation, il est complètement moins cher que les indices US. D'ailleurs, même les valeurs de la tech chinoise sont hyper basses à la fois sur le plan technique et sur le plan de la valo. Bon, voilà. Il y a peut-être un trade à faire cette année, hein, jouer le rebond des marchés actions chinois, donc de la Chine continentale, Shenzhen et Shanghai. Et puis peut-être s'alléger sur les stars de la tech US qui ont quand même pas mal performé et où on est sur cette surextension de vaccin qui jusqu'où elle va aller. Bon, voilà. Voilà, bon, vous avez passé un bon moment? Bah, si c'est le cas, mettez-moi un petit like. Si c'est pas le cas, bah, un petit like quand même, hein, voilà, pour la bienveillance. Merci à toutes et à tous, en tout cas, de votre attention et passez un bon début de semaine. Merci.